C'est l'histoire d'un garçon qui mangeait des œufs durs comme d'autres, des bonbons. C'est con, un œuf, mais ça remonte le moral à lui. En tout cas, il enfilerait bien à Rob le chat, d'ailleurs, mais il est diabétique, le chat. Et donc voilà, régime croquette, c'est triste, mais c'est comme ça. Lui, il s'est mis au sport, c'est récent. Longtemps, il a cru qu'il détestait ça, le sport, que c'était un truc de mec, de vrai, des pas comme lui, des pas comme ça. En sixième, il a eu 1 sur 20 en gymnastique. Faut dire, elle était belle, sa roulade. Ouais, mais ça s'est arrêté là. Alors, il est allé au cinéma. Le cinéma, il adore ça, mais les répliques, il retient pas. Zéro mémoire, et donc, voilà. Un jour, Claire Denis était présidente du jury au Festival de Deauville. Elle est arrivée, elle a déclaré « The bottom of my heart, il est un peu sombre. » Il a adoré, alors il se l'est tatoué sur la poitrine. Comme ça, il était sûr de ne pas pouvoir l'oublier. Après, il a gobé un œuf, et donc voilà.
France Inter. Julia Foïs. Unique en son genre.
Afhandling. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja. Psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden.
Bonsoir et bienvenue Thomas Messias.
Bonsoir.
Dans ton contrat ce soir, tous les et donc voilà, tic de langage totalement absent évidemment de votre nouveau livre, À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine. En revanche, on le retrouve ce film Drunk de Thomas Vinterberg, carton au box-office, un César, un Oscar, vous en parlez dans votre livre. Pour vous, il raconte quoi ?
Il raconte une histoire de quatre hommes qui, en fait, alors là, c'est une expérience sur l'alcool et sur le fait de boire de plus en plus et de façon quotidienne, mais il raconte de façon plus large ce que la plupart des hommes font dans la société actuelle, c'est-à-dire de mener leur vie, de mener leurs propres expériences en n'en ayant absolument rien à faire de ce qui se passe autour d'eux et notamment de la condition des femmes.
C'est l'idée donc que l'amitié masculine passerait avant tout et permettrait tout. Le mythe de l'amitié masculine, ses fonctionnements, ses enjeux, ses dérives, surtout, c'est le sujet de votre livre, dont le postulat pourrait tenir en cette phrase « Le patriarcat alimente les amitiés masculines comme les amitiés masculines alimentent le patriarcat ». Mais encore, en quoi par exemple ?
Eh bien, on a cet esprit de solidarité indéfectible où effectivement l'amitié elle est là, elle est là pour qu'on puisse se soutenir dans les bons moments comme dans les mauvais, mais... En ce qui concerne l'amitié masculine, on se soutient également quand nos amis ont des comportements extrêmement répréhensibles qui peuvent aller de la blague très sexiste à la machine à café jusqu'à l'agression sexuelle ou au viol.
Donc ça veut dire que quand on appartient à une catégorie dominante, cette domination-là est d'autant plus renforcée qu'entre dominants, on se serre les coudes.
C'est ça.
Quand vous parlez de meute, c'est pour l'aspect hiérarchique et organisé des bandes de mecs, c'est pour leur animalité, c'est pour leur instinct grégaire, c'est pour quoi ?
C'est pour effectivement ce côté organisé, c'est pour cette hiérarchie parce qu'on a toujours un ou deux leaders dans le groupe d'amis, dans la meute, hein, les plus charismatiques, les plus beaux, les plus dragueurs. C'est également une référence au film Very Bad Trip où effectivement on a cette bande d'amis qui s'autodécrit comme une meute. Et il y a aussi ce côté prédateur, puisque dans l'espace public, aux terrasses de café, sur les terrains de sport, dans les skateparks et un peu partout, on a ces bandes d'amis garçons qui phagocytent l'espace géographique, qui vont vraiment installer leur domination de façon physique, qui vont également monopoliser toute la parole et qui ne vont pas laisser du tout de place aux autres personnes.
Et la meute, ça va bien au-delà de la bande d'amis. Ce que vous dites, c'est que la meute, elle est partout. Elle organise la société dans laquelle on vit à tous les niveaux.
Oui, si on observe par exemple les conseils d'administration des grandes entreprises où les pourcentages d'hommes sont absolument effarants et on a des conseils d'administration qui sont presque exclusivement composés d'hommes par exemple, c'est les hommes qui décident, qui du coup promeuvent d'autres hommes. Et on a comme ça quelque chose de perpétuel qu'il faut essayer de briser, sans quoi ça durera jusqu'à la nuit des temps.
Alors justement, s'il faut en sortir, c'est qu'au fond, elle fait ressortir le pire de nous-mêmes, c'est ce que vous écrivez Thomas Messias, le pire de vous-même aussi. Vous avez fait beaucoup de chemin avant de devenir ouvertement et activement allié des féministes. Vous dites dans ce livre vos errements, vos regrets, comment vous avez plongé et avec joie dans ces bandes de mecs dans un premier temps, comment vous en êtes progressivement éloigné. Mais aujourd'hui, si je vous tends ce miroir là, maintenant, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ou qui est-ce que vous voyez ?
Je vois un homme qui vieillit. J'ai 37 ans. Je sens arriver la quarantaine et j'ai jamais complexé sur mon âge, mais je crois que c'est encore en train de commencer à arriver. Donc, est-ce que la crise de la quarantaine va m'arriver ? Ben, malheureusement, je crois que si je fais pas attention, ça va être le cas. Mais quelqu'un qui vieillit en étant de plus en plus conforme à ce qu'il a envie d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'être un homme bien, qui fait encore des erreurs, qui en fera encore d'autres, mais qui essaye de respecter toutes et tous. Et de laisser la parole et d'écouter les gens et de partager plein d'expériences de vie aussi.
Vous le dites dès le début de votre livre, vous êtes aussi un homme blanc, hétéro, cisgenre. Vous le précisez tout de suite, certains pourraient vous reprocher de catégoriser, de communautariser. Mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous de le dire ?
C'est important que j'explique d'où je parle, et c'est-à-dire en l'occurrence de ma tour d'ivoire, celle d'un homme blanc, cisgenre, hétéro, qui est donc quelqu'un qui a coché toutes les bonnes cases au loto des privilèges et qui du coup n'est pas victime d'oppression au quotidien. Je peux me balader relativement tranquillement dans la rue, je suis payé plus qu'une femme à compétences et à poste équivalent, je ne suis pas victime de blagues sexistes dans le cadre de mon travail ou de ma famille, je subis pas de racisme non plus, enfin voilà, je subis pas aucune de ces discriminations-là. Et du coup, c'est assez dangereux parce que les gens comme moi, on se dit qu'en fait tout va bien, que la vie est plutôt cool, elle est plutôt confortable, et que pourquoi on se poserait des questions finalement ? Est-ce que les féministes, elles se poseraient pas un peu trop de questions ? Est-ce qu'elles couperaient pas un peu les cheveux en quatre ? Et c'est pas forcément simple d'engager ce chemin-là, en fait.
Alors c'est ce chemin qui pourrait faire mauvais genre chez vous, ce sont vos tatouages aussi, dont cette phrase de Claire Denis que je citais il y a quelques minutes. Mais vous, ça n'est pas ce que vous avez choisi. Quand on vous a demandé ce qui ferait mauvais genre chez vous en préparant cette émission, vous avez répondu ?
Le vernis à ongles.
Qui est de couleur. Alors, on est sur un noir, je dirais un gris anthracite, un
alors,
petit peu foncé.
Moi, je suis daltonien, donc je ne nomme jamais les couleurs de mes vernis. Je les choisis parce qu'ils me plaisent et je les mets et je m'arrête là.
Écoutez, on est entre le vert très foncé et l'anthracite très foncé, c'est très joli. Depuis quand est-ce que vous mettez du vernis ?
Ça doit faire 4 ou 5 ans, je ne me souviens pas exactement. Mais en fait, je pense que ça faisait beaucoup plus de temps que j'avais envie d'en mettre et puis que je suis un homme, donc on ne met pas de vernis. Et puis un jour, j'ai décidé d'en mettre un week-end et puis je me suis senti bien. En fait, c'est extrêmement simple. J'avais envie d'en mettre, j'en ai mis, j'ai trouvé ça cool.
Et quel est le regard qu'on porte sur vous, sur votre vernis plus précisément ? Par exemple, au lycée, vous êtes prof de maths dans un lycée à Roubaix. Est-ce que ça, vous savez si on en parle dans les cours de récré ou dans la salle des profs ?
Eh bien, je vous dirais ça dans quelques temps, parce que pendant des années, je n'ai mis du vernis que le week-end.
Ah.
Et j'ai commencé à en mettre pour faire cours il y a une semaine.
Oula !
Pour la nouvelle rentrée, en me disant... c'est une étape supplémentaire. Encore une fois, c'est vraiment pas grand-chose et c'est même pas une revendication. C'est de dire, mais en fait, le vernis, c'est moi, ça fait partie de moi, c'est quelque chose avec lequel je me sens bien, donc allons-y. Et donc, voilà, ça fait une semaine que je fais cours avec du vernis. J'avais une petite appréhension et, pour l'instant, aucune remarque face à moi, alors que j'ai des élèves qui savent très bien dire à voix haute ce qu'ils pensent. Ça parle sans doute dans mon dos, je suis sans doute le prof avec du vernis, peut-être que des noms d'oiseaux ont fusé, mais en fait, en réalité, je m'en fous.
Mauvais genre, en tout cas, si l'on se réfère à l'être humain standard, à l'individu par défaut que serait l'homme hétéro cisgenre, c'est ce que vous écrivez aussi dans ce livre. Tout est organisé, pensé, créé par et pour cette meute. Eux aussi, ils s'en sont écartés de la meute parce que trop féroce, parce que trop vorace, marre de se faire bouffer, s'en éloigner, condition sine qua non pour exister. Alors forcément, ils ont fini par se trouver. Eddie de Préto, avec Isulte, joyeusement anormaux.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, me fuir. Jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Dis-tu, fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire, comment. Pour se tenir, toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me dailler. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher. Mais tu sais, toi, tu connais comment ouais, je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule.
épaules, tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
On
nous dit tenir toujours, sourire pour qui, pourquoi jamais faiblir. Dis-tu, fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les poncer. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
On nous dit de tenir toujours, sourire pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Allez, viens, on appuie sur pause avec Eddie Depreto et Isolde dans ce joli duo. Isolde qu'on avait reçu dans Unique en son genre l'an dernier, vous la retrouverez évidemment dans nos podcasts sur l'appli France Inter, comme quoi nous sélectionnons toujours nos invités pour leur éminente qualité. Prof de maths le jour, journaliste la nuit, accessoirement père poule de 3 enfants, Thomas Messias est notre invité ce soir. Avec lui, on glisse l'orteil, l'œil, l'oreille, pile au milieu des bandes de mecs.
Unique en son genre.
Vous avez une définition de la virilité?
Waouh.
Bien sûr. Nique un maximum de meufs, boire de la bière, toujours des voitures. C'est ça la vie.
J'avais 6 ans et donc j'étais à la cour de récré. Et donc j'étais plus petit que tout le monde parce que j'avais un retard hormonal. Bref, du coup, je discutais avec une meuf sans aucune arrière-pensée parce que vraiment à 6 ans, on est vraiment sur une libido qui est assez basse. et là, il y a un mec un peu plus grand que moi qui a le même âge qui arrive. Et en fait, il arrive et il bombe le torse. De manière vraiment comme ça, il se colle à moi. Donc moi, je le regarde comme ça. Et il fait, il y a un problème ici? Du coup, la meuf à côté de moi dit, mais non, il n'y a pas de problème. Il t'embête, là? Et moi, je le regarde, je me dis, mais il se passe quoi, là? Et elle fait, non, non, il ne nous embête pas. Il fait, ouais, il n'y a pas intérêt. Et il s'en va.
Donc il était déjà dans un schéma de les mecs entre eux et je suis là pour gérer.
Exactement. Et il y avait un truc de entre mecs, c'est-à-dire que qui est le plus fort,
ouais, voilà,
rappelle-toi ça. Et par rapport à la meuf aussi, tu sais, il y avait un truc de... Tu vois, c'est moi le chef de meute.
C'est moi, ouais. Je te protège.
Bonjour, là, ça.
Et vous dites, c'est comme s'il y avait des problèmes.
Enfin, oui, il y avait rien, c'était ridicule.
Forcément, ça veut dire que tu es le prédateur qui va vers les lions et lui fait, hey, il y a un souci.
Exactement.
Et de quoi?
Vous connaissez Thomas Messias, je suppose, Ben Nevert et ses acolytes, qui, sur YouTube, interrogent la construction masculine, l'éducation des petits garçons, ces valeurs qu'on vous inculque dès le biberon. Vous reconnaissez dans ce qu'on vient d'entendre, là?
Oui, tout à fait. Moi, j'étais un survivant en gymnastique au sol. J'étais pas le plus sportif de mon collège. J'étais un peu malingre. Mon mécanisme de défense, je pense que c'était l'humour. Alors, j'avais pas forcément une répartie à la seconde près, mais j'avais quand même une sorte d'esprit qui faisait que je me suis jamais fait taper, en tout cas, pendant ma scolarité, j'ai eu cette chance.
Vous écrivez que vous rêviez d'aller jouer sur le terrain et pas tellement pour jouer au foot, mais pour en être, quoi, pour être au centre, c'est ça?
Ben oui, parce qu'en fait, quand on est un garçon, on a l'impression que forcément, il faut qu'on fasse partie du groupe de garçons ou des groupes de garçons qui sont face à nous, parce que sinon, on va être seul. On a l'impression qu'on nous dit dès la maternelle qu'on peut pas être ami avec les filles. Le premier jour de maternelle, on arrive et si on est un garçon, on nous dit, bah, va jouer avec les petits garçons là-bas aux voitures. Et on nous dit jamais, va jouer à la cuisine avec les filles. Et donc, pour moi, c'était être ami avec des garçons ou rien. Donc, j'y suis allé. Même si, en fait, au fond de moi, je pense que dès le départ, je savais que c'était pas vers ça que j'avais envie d'aller.
On va reprendre les choses depuis le début, si vous voulez bien. Vous naissez le 19 août 1984 à Saint-Quentin dans l'Aisne. Votre mère, Catherine, est comptable. Votre père, Bruno, travaille dans les bureaux d'EDF. Elle est tendre, il est lunaire, écrivez-vous. Mais encore, quels parents sont-ils? Et puis, autre question, deux en un, quels parents sont-ils et quel couple forment-ils?
Eh ben, j'ai des parents qui sont des gens qui m'ont appris des choses extrêmement simples. Ils m'ont juste appris le bien et le mal, ce qui est, je pense, déjà une bonne chose. Ils m'ont appris à être poli avec les gens, à les respecter. C'était pas très politisé comme éducation, en tout cas, c'était pas très militant de façon appuyée. Mais voilà, l'idée, c'était de respecter tout le monde.
Ça les embête, eux, que vous ne soyez pas un cador au foot?
Ça les a jamais embêtés parce qu'il n'y a aucun esprit de compétition à la maison. C'est-à-dire que j'ai fait du sport parce qu'il fallait faire du sport.
Ouais.
Il fallait faire une discipline sportive parce que ça fait du bien pour l'hygiène de vie. Mais mes parents, ça les aurait presque embêtés que je sois un cador au foot ou au tennis de table, parce que ça aurait voulu dire consacrer après trop de temps au sport, ce que eux estiment ne pas être non plus une bonne chose.
Donc, et qu'est-ce qu'ils vous disaient de ce que doit être un garçon, de ce que doit être une fille?
Eh ben, pas grand-chose. Moi, j'ai quand même un souvenir marquant d'une phrase qui m'a peut-être impacté pour de nombreuses années et encore maintenant. La veille de l'entrée en sixième, ma mère me dit Et surtout, fais attention aux filles parce que à cet âge-là, elles ont leurs règles et du coup, elles sont extrêmement, elles peuvent être sensibles ou vulnérables. On n'avait jamais parlé de sexualité à la maison ni avant et on n'en a pas parlé après. Les règles, je savais vaguement ce que c'était, mais je pense pas totalement. Mais voilà, c'était fais attention aux filles parce qu'à cet âge-là, ça peut être compliqué. Je pense que ça a joué pas mal sur ma façon, effectivement, d'avoir d'entretenir des relations avec elles, déjà de leur foutre la paix.
Oui, vous parle assez vite de ce qu'elles peuvent vivre.
C'est ça. Ça n'est pas allé plus loin. Mais en une phrase, je pense que ma mère m'avait vraiment tout dit, en fait.
Vous êtes un garçon assez solitaire, assez timide, assez discret. Le samedi soir, vous vous enflammez avec Jacques Vendroux, Eugène Saccomano et tous ceux qui, dans cette maison, font vivre le multiplex foot dans votre chambre des posters de Zidane ou de Lizarazu dans vos oreilles. Ceci.
Le ballon pour Zidane. Et but ! But de l'équipe de France ! Extraordinaire but de Jean-Michel Larquet.
Mais il veut l'équipeur ! Oui, mais c'est Bolli qui la met au fond.
Quel but phénoménal de la Giresse.
Eugène Kéké, il marque le but.
Tire de Dominique Patenet, le gardien Clément s'est battu.
Platini qui tire, Michel Platini le garde.
Dominique Rocheteau est insaisissable. Troisième but d'Éric Pécou, le but marqué par Zidane, le deuxième.
La tête de Serge Maisonnet, Jean-Paul Garfondemann est battu.
Une émission préparée.
Vous souriez encore à les entendre, Thomas Messias. Qu'est-ce que vous vous dites ?
Ah mais j'ai vécu des grands moments devant le football, qui est un sport dont je me suis un peu détaché, même si je continue à suivre les résultats. Non, je riais aussi parce que je parlais de mon âge tout à l'heure. Je suis pas assez vieux pour avoir entendu ou vu Jean-Michel Larquet jouer. mais voilà, cette ferveur dans les stades et tout, c'est quelque chose qui continue à me parler.
Qu'est-ce qu'il vous racontait de la vie et de la virilité, les joueurs de foot, quand vous les voyez à la télévision?
Je pensais pas forcément en termes de virilité. En même temps, je pense que inversement, mes plus grands souvenirs et mes plus grandes émotions devant la télé, c'était les joueurs qui pleuraient après une victoire ou après une défaite d'ailleurs, les après-matchs, notamment les joueurs qui perdent une finale et qui errent sur le terrain, qui s'allongent par terre ou qui ont vraiment les larmes aux yeux parce qu'en fait c'est une année voire 4 ans de travail qui d'un coup partent en fumée. Et je pense que c'est dans ces moments-là que j'étais le plus ému par ces hommes qui finalement montraient à ce moment-là qu'ils n'étaient pas des grosses machines uniquement mais qu'il y avait des sentiments derrière.
Vous êtes, attention, autre tard, plutôt bon élève, surtout en allemand et en maths, c'est dire si vous êtes sérieux, Thomas. Madame Vialet, votre prof de français, vous apprend que personne n'est mieux placé qu'une femme pour écrire sur les femmes, ce qui fait sans doute qu'aujourd'hui vous écrivez sur les hommes. Mais les amis, dans tout ça, est-ce qu'il y a de la place pour eux au collège ?
Il y a de la place pour les amis. En fait, ça se décompose de façon assez simple. Il y a un groupe d'amis garçons, il y en a eu plusieurs successivement, et il y a des amis filles également.
Avec qui vous avez des relations plutôt bilatérales, c'est ça ?
Ouais, avec qui on a des relations plutôt, c'est ça, des relations, des amitiés individuelles assez souvent, où je deviens...
Non mais je suis très sommet de l'ONU quand je parle d'amitié, donc je parle de relations bilatérales.
C'est vrai que je me rends compte assez vite que, sans vraiment le vouloir, mais parce qu'elle m'intéresse aussi, que visiblement j'ai toutes les caractéristiques d'un bon confident, et donc qu'on me parle. Et que je ne sais pas forcément quoi dire, mais que visiblement j'ai l'air de bien écouter.
Ouais.
Et donc ça m'offre un regard différent sur le monde, en tout cas, ou sur au moins sur la cour de collège et de lycée. C'est parce que je me rends compte que ce que vivent les filles est vraiment très différent de ce que vivent les garçons.
Ouais, sauf que vous êtes un petit peu schizophrène, puisque vous aimez passer du temps avec des filles, vous aimez les entendre parler, vous aimez qu'elles se confient à vous, et en même temps... Le soir, si le samedi c'était le multiplex, le soir de semaine c'est plutôt Max sur Fun Radio. Si on veut avoir une idée de comment, sous la couette, en cachette des parents, les ados, doucement, sûrement, apprenaient une certaine idée du masculin, on écoute ceci.
Non, ça va faire bon défi là. Oh, ok, Pride.
Non, y a pas de...
C'est toi qui vire mauvais garçon, c'est tout.
T'es en train de virer mauvais garçon.
Non, j'ai peut-être simplement me serrer la quéquette avec une corde, c'est tout.
Oh non.
Non, je déconne.
C'était quoi, Max, pour vous, à l'époque ?
C'était effectivement le frisson d'écouter une émission tard le soir, sous la couette, en se disant « Oh là là, j'ai éteint à minuit et demi, s'ils savaient, mes parents... » Et c'était de la bonne humeur, c'était du très bon esprit, en tout cas, selon moi, à l'époque.
Ouais.
C'était effectivement des mecs qui se vannaient. Y avait
vous ne vous rendez pas compte du tout, à l'époque, de ce qu'il peut y avoir de sexiste et d'homophobe dans...
Non, absolument pas.
Non.
Et d'ailleurs, je serais extrêmement curieux de pouvoir réécouter certaines de ces émissions et de les voir avec mes nouvelles lunettes.
Alors,
en fait.
Marianne, notre réalisatrice, l'a fait et très longuement pour vous, Thomas Messias. Je pense qu'elle ne s'en est pas encore remise parce qu'effectivement, avec le recul, hors contexte, c'est on va dire assez mastoc hein, en termes de d'homophobie et de sexisme. À l'époque, Est-ce que ce sont des termes même que vous employez, que vous connaissez, qui veulent dire quelque chose pour vous ?
Non, l'homophobie, le sexisme, tout ça, pour moi, c'est des choses, c'est peut-être des mots que j'ai jamais entendus, mais je pense que c'est vraiment une question d'époque. Les garçons n'en ont jamais entendu parler. Les filles, même si elles vivent des choses, je suis pas sûr non plus qu'elles aient vraiment mis des mots là-dessus. On avait quand même beaucoup moins théorisé les choses. Et moi, je vois mes élèves maintenant, j'ai des lycéens, des lycéennes actuellement. On sent que c'est des jeunes gens qui connaissent ces histoires-là, qui connaissent pas forcément les mots précis, mais qui savent qu'il y a des rapports de genre, qu'il y a des inégalités. Nous, à l'époque, y compris les élèves les plus brillantes, on pensait que c'était un peu comme ça, c'est tout, et puis voilà quoi.
Et qu'est-ce qu'on disait des homosexuels, par contre ?
Bah moi, je me souviens que dans mon établissement, qui était un collège-lycée, c'était vraiment le même établissement pendant 7 ans, il y avait, je me rappelle, de deux garçons qui étaient clairement étiquetés comme étant homosexuels. Et oui, ils étaient, en tout cas de ce que j'ai vu, ils n'avaient pas l'air d'être maltraités quotidiennement dans l'enceinte de l'établissement. Mais clairement, ils étaient pointés du doigt, on parlait d'eux dans leur dos. Donc c'était des gens différents et dont on avait quand même envie, avec lesquels on avait envie de maintenir une certaine distance parce qu'ils n'étaient pas comme nous.
Ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il faut tout faire pour montrer qu'on est bel et bien hétéro, qu'on n'est surtout pas homo. Donc on fait comment ? On fait comme on l'entendait dans l'extrait de Entre mecs, on multiplie les conquêtes ?
On multiplie les conquêtes, ou en tout cas, déjà, on parle ensemble dans le groupe de garçons. On parle de telle ou telle fille qu'on trouve jolie et qu'on trouve belle. On montre qu'on est attiré, y compris sexuellement, et ça dès un âge très, très jeune, par ces filles. Au moins, on le verbalise. Quitte à, même si on ne fait rien derrière et même si on ne tente rien avec aucune, voilà, on montre pas de blanche.
Quels étaient vos rapports avec les filles, avec l'amour, avec la sexualité à l'époque ?
Oh, j'avais une sorte de cœur d'artichaut. J'aimais la compagnie des filles. Du coup, forcément, il y en avait avec qui je me sentais bien et dont je pouvais avoir l'impression de tomber amoureux. En fait, c'est en général 15 jours après, je tombe amoureux d'une autre. Donc, ça ne devait pas être vraiment de l'amour.
Et votre premier grand amour, c'était qui ?
C'était au lycée. J'avais beau être dans le même établissement pendant 7 ans. C'est une élève qui est arrivée en seconde d'un collège plus lointain. Et j'ai eu la grande surprise de me rendre compte que visiblement, il était possible que moi, Thomas Messias, j'inspire des sentiments, voire du désir. J'avais 14 ans à une fille que je trouvais extrêmement belle et un peu plus âgée que moi. Enfin, ça a été une sorte de cataclysme après un grand vide.
Alors vous vous séparez, évidemment, parce que ça, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Vous grandissez, vous partez à l'internat. Là, pour la première fois à 17 ans, vous intégrez une bande d'amis, un groupe de mecs comme vous en rêviez. Et la suite, ben juste après ma crise, Alban de la Simone, vous êtes sur France Inter.
Un jour, la vie est belle, une euphorie nouvelle. Pour un oui, pour un non. Tout va bien pour de bon. Un jour, je suis croyant, végétalien, pratiquant. Plus de sel ni de pain. Plus de lait ni de vin. Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds. Je trépigne, je m'égare. Un jour je ressemble à mon père. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. Un jour je donne, je donne, je donne, je donne. Le cœur sur la main, sur le cœur. Un jour je parle fort, à raison et à tort. Je m'emballe, je digresse. Je m'affale et vous délaisse. Un jour je bois du noir, miné par mes déboires. De la veille et de l'avant-veille. Et tout à coup, tout m'émerveille. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. jour, je n'y crois plus, pas le coup, pas un clou. Moitié plein, moitié bu. Tout est flou, tout est faux. Et toc, un coup du ciel, à nouveau la vie est belle. Pour un oui, pour un non, tout va bien pour de bon. C'est la crise qui m'épuise, rien à faire. C'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire. C'est la crise
Albin de la Simone, cet homme qui doute, Thomas Messias, c'est une certaine idée de la virilité qui vous va mieux ?
Ah oui, tout à fait. Je pense que le doute, à condition qu'il soit bien dosé, ça peut être un carburant super. Je pense que les hommes ont besoin de douter davantage, parce que le problème, c'est que les hommes sont souvent des voitures lancées à 300 à l'heure, qui, encore une fois, se disent « il n'y a aucune raison que je m'arrête et que je me pose des questions ». Et je pense que quand on se met à douter, on découvre des tas de choses autour de soi et on découvre des tas de questionnements qui peuvent nous enrichir énormément.
Mais qui fragilise aussi.
Qui fragilise aussi, parce que le doute, le problème, c'est que quand il est mal dosé, quand il est excessif, après, on a peur de son ombre, on a peur de la vie, on a peur de bouger le moindre petit orteil. Donc, c'est aussi un truc à travailler et à découvrir.
Ouais, mais ça, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Pour cela, il vous a fallu faire un long chemin que vous racontez en partie dans votre dernier livre, À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine. Et pour en sortir, il faut d'abord y rentrer.
France Inter, unique en son genre.
Thomas Messias, vous avez 18-20 ans, vous avez donc intégré votre première bande de potes, ça y est, enfin, vous en êtes, et vous en êtes vraiment, est-ce que vous en êtes surtout heureux ?
Je pense que je le suis de façon ponctuelle, parce qu'on passe des bons moments conviviaux, parce que effectivement, cette camaraderie masculine qu'on voit dans pas mal de films et de séries, quand on se pose pas de questions, elle est assez chouette. On fait des barbecues, on regarde des matchs de foot, on part en virée à la mer, et certains ont des copines qui restent ou qui restent pas, et tout se passe très bien.
Vous dites, on a l'idée que l'amitié permet de surmonter tous les chagrins. C'est ça aussi, c'est je serai moins seul et je souffrirai moins parce que j'aurai toujours ma bande de potes avec moi.
Oui, c'est ça. La solitude peut faire peur. En fait, moi, au fond, je suis un grand solitaire, mais il m'a fallu pas mal de temps pour l'admettre et pour me dire qu'en fait, c'était pas une tare, que c'était juste un trait de personnalité. Mais oui, on a toujours l'impression qu'être entouré, que ce soit par des bonnes personnes ou des moins bonnes, c'est une bonne chose.
Vous évoquiez tout à l'heure la hiérarchie interne à cette meute, à ces meutes. Vous décrivez dans votre livre deux cercles. Il y a le premier cercle qui est composé de gens qui ressemblent un petit peu aux leaders, qui auraient pu être leaders mais qui ne le sont pas, qui vont faire un peu dans la surenchère. Et puis il y a ceux qui sont tolérés et qui savent très bien qu'ils sont tolérés, qui sont sur un siège éjectable en réalité. Vous étiez où ?
Ah, moi, j'étais dans ceux qui étaient tolérés. Je pense que j'étais quand même relativement apprécié parce que je sais être sympa, je sais blaguer. Alors du coup, avec des blagues qui peuvent être parfois totalement acceptables et puis parfois moins, parce que les blagues sexistes, ça marche tellement bien que ça serait quand même dommage de se priver. Mais je suis toléré parce que par exemple, je suis très mauvais au foot et donc les fameuses grandes parties de foot interminables dans le jardin ou sur le terrain municipal, eh bien, une fois sur deux, on m'y invite pas parce que je sers à rien.
En dehors de l'aspect spécifique du foot, ce que vous dites sur les bandes de mecs, c'est pas valable pour les bandes de filles ?
Alors, c'est un argument qui m'est souvent opposé. Effectivement, oui, les bandes de filles, j'ai pas mal de filles, de femmes qui me disent qu'elles ont vécu elles ont observé des schémas similaires. Elles me disent qu'effectivement, les bandes de filles peuvent être très méchantes entre elles. Oui, effectivement, on n'est pas dans l'angélisme pur et dans la binarité. L'amitié, d'une façon générale, je pense qu'elle est à déconstruire et que on a tendance à la placer, à la sacraliser à tout prix et à se dire que puisqu'on est ami avec telle ou telle personne depuis 5 ou depuis 30 ans, eh bien, il n'y a pas de raison que ça change et que cette personne, on va accepter tout d'elle, y compris si c'est une femme. Donc non, dans les groupes d'amis femmes également, ici il y a des soucis à pointer du doigt, mais c'est moins systémique, je dirais.
C'est à peu près comme, pardon pour le parallèle, mais pour les violences conjugales ou les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'elles existent, bien sûr, des autrices de violences, sauf qu'elles ne sont pas systémiques, donc on ne les pense pas de la même façon, c'est
oui,
ça ?
Exactement.
Ça ne repose pas sur les mêmes enjeux, et puis ça n'a pas forcément la même portée.
Oui, les groupes de filles, enfin je veux dire les groupes de garçons. Dans les groupes de garçons, on a, bah, si on reparle encore une fois des histoires de, bah, de féminicide ou même ou de viol ou d'agression sexuelle, il y a vraiment ce côté se serrer les coudes, y compris quand on a un violeur dans le groupe. C'est un témoignage que je reçois très souvent. Notamment par les auditrices et auditeurs de mon podcast. Chez les filles, on a quand même beaucoup moins ça. On n'est pas en train de toujours protéger sa copine qui a commis l'irréparable.
À l'époque, vous imaginez, trentenaire, buvant du vin blanc, devisant sur le monde comme il va avec des amis intellectuels, mais aussi avec Emmanuel Devos et Marianne Denicourt, parce qu'en fait, vous vous rêvez en personnage d'Arnaud Desplechin, vous avez lâché le foot pour le cinéma, vous êtes très cinéphile, et à 18 ans, vous tombez sur Le cœur des hommes de Marc Esposito.
Mais pourquoi on s'est pas barré quand on gagnait, putain?
Parce qu'on est des ânes battés. Pourquoi? Ça tombe mal, parce que moi j'avais besoin de cash. Qu'elle me coûte cher, maman, avec ses conneries.
Ces conneries, excuse-moi.
T'es avec moi ou t'es contre moi? Putain, t'es chiant.
Respecte sa douleur, merde.
Mais dans un moment pareil, j'espérais un peu plus de solidarité. Tout de haut. J'ai égorgé personne.
On est aussi solidaire qu'on peut l'être.
Ça veut dire quoi, ça? C'est pas franc du collier, hein? Reconnais.
Mais ça veut dire que ton cas est objectivement indéfendable. Mais qu'on est quand même là avec toi.
Et voilà.
Jusqu'où vous êtes avec moi? Jusqu'à quel point? Hein? Par exemple, si j'en avais besoin, vous feriez des lettres ou vous diriez que vous saviez pas que j'avais des copines?
Non, parce que là c'est pas possible.
Mais moi, je tombe de très haut. Moi, je le ferai pour vous, bon con que je suis. Il n'y a pas de mal à mentir pour aider un pote. C'est quoi cette mystique de la vérité d'un coup, là? Et puis quand ça passe avant l'amitié?
Quel effet vous fait ce film à l'époque, au moment où vous le voyez, Thomas Messias?
Mais moi, je suis, tout en ayant conscience déjà à l'époque que c'est pas un très très bon film d'un point de vue purement cinématographique, c'est quand même écrit de façon assez grossière, assez pompière, ça je m'en rends compte dès le départ, mais je suis bien dans ce film. J'ai envie, d'ailleurs j'achète le DVD quand il sort, je revois le film, ça devient, c'est un feel good movie, parce qu'on a effectivement quatre mecs qui devise autour de la vie, qui raconte des conneries, qui passe des bons week-ends. Et on se dit qu'on a envie d'être comme ça quand on aura 40, 50, 60 ans comme les personnages.
Ouais, sauf qu'aujourd'hui, à 37 ans, ce que vous voyez surtout, c'est que si on dézoome un petit peu, l'affiche représente quatre hommes au bord d'une piscine avec les pieds dans l'eau. Et vous vous dites, ouais, sauf que si on dézoome légèrement, ce qu'on va voir surtout derrière eux, c'est quoi?
Eh ben, c'est les compagnes, les conjointes qui sont en train de s'affairer pour préparer la belle table du déjeuner, qui vont s'occuper des enfants et auxquels on ne va accorder vraiment aucune importance.
Ce que raconte ce film et ce que vous écrivez dans votre livre, c'est aussi que la société produit des êtres sans empathie, des hommes sans empathie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette case-là dans leur éducation.
Non, c'est, en fait,
si
on reparle du cœur des hommes, on a le personnage de Marc Lavoine qui trompe sa femme midi et soir, et donc là, il est extrêmement plaint parce que quand elle s'en rend compte et qu'elle menace de le quitter, c'est vraiment il est vraiment considéré comme une victime. Et bon, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ses amis le charrient un peu, mais au final, ils le soutiennent quand même jusqu'au bout. Et puis, on a un autre personnage qui est joué par Bernard Campan, qui lui est trompé une fois par sa femme. Elle lui avoue, elle est extrêmement triste quand elle lui avoue. Et lui aussi est considéré comme la victime. L'homme est toujours la victime. Et donc oui, l'empathie, le problème, c'est que dès le plus jeune âge, bah, les garçons, c'est une valeur qu'on leur transmet pas. On leur apprend à foncer tête baissée, à être compétitif. Alors que les filles, en général, on leur colle un poupon dans les mains et on leur dit, bah écoute, maintenant, il faut t'en occuper, il faut prendre soin de lui et écouter ses souhaits, ses désirs, ses douleurs.
Alors, d'un visionnage à l'autre du cœur des hommes, vous êtes progressivement éloigné de votre vision première. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a provoqué ce virage? Et bien, entre autres, ceci. Sur Radio Campus, vous teniez une chronique ciné, je crois, oui. Thomas. Vous avez rencontré celle qui, en 2010, devient votre femme et par la suite la mère de vos trois enfants. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés sur l'amour, sur le couple, sur les femmes ?
Ah mais clairement, déjà, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur sur le monde. C'est-à-dire qu'elle m'a appris qu'il fallait se poser des questions et qu'il fallait pas juste mener sa vie en regardant droit devant soi, et que il y avait autour de nous des gens tellement divers et tellement intéressants qu'il fallait peut-être qu'à un moment j'enlève mes œillères et que j'aille vers ces gens.
C'est la première fois que vous les enlevez, c'est quand vous la rencontrez. Première fois que vous sortez de ce qu'on appelait cette norme, en gros, de l'homme blanc hétéro cisgenre qu'on évoquait au début de l'émission.
Totalement, parce que en fait, elle a même modifié ma façon de voir les films assez rapidement. Moi, je raisonnais en termes de mise en scène, de scénario, de rythme, d'interprétation. Et les premiers films qu'on a vus vraiment ensemble, en sortant, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même grille d'analyse. Que elle, effectivement, les rapports de genre étaient déjà là dans ce qu'elle retirait des films. Le traitement des personnages féminins, les traitements de certains personnages non blancs ou de personnages LGBT. Quand elle me pointait ça et qu'elle me mettait ça sous le nez, les premières fois, je me suis senti vraiment idiot. Je me suis dit, mais en fait, tous les films que j'ai vus jusque-là, bah, je les ai pas vraiment vus.
Oui, mais ça veut dire que vous étiez prêt à les voir autrement, quand même.
Oui, après, c'est aussi parce que quand on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux, on a normalement plus envie d'écouter cette personne. Et quand elle a envie de nous montrer que peut-être on voit pas la vie par le bon bout de la lorgnette, bah, on a peut-être envie de faire un effort supplémentaire.
Alors, elle a tout révolutionné en vous ou chez vous, dans votre façon, pas seulement de voir les films, mais aussi de voir la vie et le couple. À un moment donné, arrive dans votre vie une femme, une jeune femme. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe là ?
Eh bien, à un moment donné, ma femme tombe amoureuse d'une autre femme. Mmh. Et on en parle. Elle m'en parle.
Elle était déjà tombée amoureuse d'autres femmes ?
Je dirais que non, en tout cas, ça non pas de façon aussi marquée. Mmh. Donc, elle m'en parle, parce que l'idée chez nous, c'est que toute conversation est bonne à avoir si on en éprouve le besoin. Et donc, voilà, elle me dit qu'elle est amoureuse de cette femme. Et en gros, on discute sur le fait que on se pose la question, elle me pose la question. Est-ce que tu penses que je pourrais aussi vivre cette histoire-là ? Mmh. Et c'est un peu bizarre à entendre, mais en fait, en réalité, je vois aucune raison de lui dire non.
Okay.
Donc je dis oui. En fait, je lui donne pas. Je précise quand même que je lui donne pas mon aval. C'est pas genre oui, je te donne la permission. Mais elle me demande quand même mon avis. Elle me demande comment je me sentirais si ça avait lieu. Et je lui dis fonce.
Il y a une période de cohabitation. Et puis cette histoire se termine. Elle rencontre ensuite un autre homme. Et là, pareil, vous formez un triangle amoureux. Vous vous occupez des enfants, je résume, hein, mais vous vous occupez des enfants à plein temps à la maison. Et elle alterne entre ses deux amours, enfin son amoureux et son mari, et puis entre son travail à Paris et puis la maison chez vous. On est aux antipodes de ce qu'on vous a raconté sur ce qu'était la virilité, sur ce qu'était être un mec, sur ce qu'était être un chef de famille, un pater familias et compagnie. Ça, vous le vivez comment ?
Au début, je le vis relativement bien pour moi. Mais par contre, j'ai du mal à en parler autour de moi. Parce que j'ai tellement peur d'être jugée, ou qu'elle soit jugée également. J'ai tellement peur d'être considérée comme une sorte de victime d'une femme qui serait absolument démoniaque et qui voudrait prendre toutes les libertés pendant que son petit mari s'occupe des enfants, que j'ai très très peur d'en parler. Parce qu'effectivement, on est dans une société, je le conçois très bien, qui est centré sur l'idée que le couple, il est censé être monogame, que la fidélité, ça consiste à n'être amoureux, amoureuse que d'une personne et à n'avoir de relations sexuelles qu'avec une personne. Et donc, je comprends que ça puisse heurter les gens. Et du coup, pendant très longtemps, j'en parle pas.
Si jamais on connaît la polygamie, on connaît le schéma, on sait que ça existe quelque part, la polyandrie, c'est encore plus rare. Donc ça, j'imagine que évidemment, c'est de ça aussi dont vous n'avez pas envie de parler. C'est ce jugement-là aussi que vous craignez. Est-ce que vos amis masculins, qui finissent par l'apprendre, vous font des remarques ?
Alors, j'avoue qu'à cette époque-là, j'ai déjà plus beaucoup d'amis masculins, ou en tout cas, je les ai déjà extrêmement bien choisis ou triés. Donc, j'ai des amis masculins à qui je peux parler si j'en ai envie. Donc, c'est pas des gens qui vont être dans le jugement. C'est des gens qui vont comprendre et qui, parfois, s'ils ont des réserves, vont peut-être même les garder pour eux en se disant, c'est la vie qu'il a choisi et qu'elle a choisi de mener. Visiblement, ça leur convient. Donc, laissons-les vivre cette expérience et puis attendons.
Le fait que vous soyez mis à sélectionner, à trier, à choisir vos amis, est-ce que c'est parce que vous grandissez ? Est-ce que c'est, et qu'effectivement, quand on devient parent, l'amitié prend un peu moins de place ? Est-ce que c'est la vie avec votre femme ? Est-ce que c'est autre chose qui fait que vous dites, en fait, là, ça va trop loin, l'amitié entre garçons, ça me va plus ?
Et je crois que je me rends compte de plein de choses. Alors, au-delà du groupe de garçons dont effectivement je pense beaucoup de mal, je me rends compte que même dans des amitiés, même individuelles avec certains hommes, ben en fait, j'y trouve plus mon compte parce qu'on reste quand même dans la surface. On n'est jamais dans quelque chose qui m'intéresse vraiment, qui est les échanges sur la base de l'intime, se raconter vraiment qui on est, ce qu'on ressent, comment on vit tel ou tel événement. Moi, à un moment, aller voir un ami ou pseudo-ami, parfois en faisant 100 km parce qu'il habite pas tout près, et finir par, en fait, encore une fois, partager un repas, regarder un film ou un match, et puis se dire au revoir, à un moment, moi, je voyais plus l'intérêt, quoi. Et mon temps est précieux. j'ai 3 enfants, j'ai plusieurs casquettes professionnelles. J'ai décidé qu'à un moment c'était trop et que il fallait que j'enlève ce qui ne m'apportait rien.
Alors justement, l'une de ces casquettes professionnelles, vous la mettez entre autres en 2018 sur Slate.fr avec ce podcast.
Je m'appelle Thomas Messias, j'ai 34 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Le jour, je suis prof dans un lycée, la nuit, j'écris des articles pour Slate.fr. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. Le genre de personne qu'on entend déjà beaucoup trop dans les médias, y compris sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément.
Vous écoutez Mansplaining épisode 1, des cookies en forme de cœur.
Je crois qu'il est important que des hommes, aujourd'hui, prennent la parole pour expliquer comment ils conçoivent leur masculinité, quel profit ils estiment en tirer, quelles propositions ils pourraient éventuellement faire pour la déconstruire. Ce que je vous propose avec
Mansplaining. Le podcast marche bien, Thomas Messias, on vous voit un petit peu partout, voire parfois on vous exhibe comme, tiens, j'ai trouvé un homme féministe, faut dire qu'ils sont assez rares. Et vous, vous reprenez alors à ce moment-là, après il y a toute une envolée comme ça autour de votre podcast et largement méritée, je le précise. Et à un moment donné, des vieux messages que vous avez postés sur Twitter qui resurgissent. Est-ce que vous pouvez nous raconter précisément ce qui s'est passé ? Allez, on va partir de la Ligue du LOL. On est à l'hiver 2019. Est-ce que vous pouvez rappeler à celles et ceux qui nous écoutent ce qu'est cette Ligue du LOL ?
Donc, début 2019, émerge enfin, j'ai envie de dire, l'affaire de la Ligue du LOL où notamment des journalistes parisiens sont épinglés pour les actions de harcèlement qu'ils ont menées pendant de nombreuses années, notamment à l'encontre de femmes et à l'encontre aussi de quelques hommes.
Vous aussi donc ?
Oui, je fais partie de ceux qui ont contribué à dénoncer ça de façon très fortuite parce que j'ai notamment publié un tweet à ce moment-là un peu énervé et un peu crypté qui a attiré l'attention de journalistes et puis c'est après monté en épingle comme ça.
Tout a démarré comme ça. Ouais. Vous aviez été cyberharcelé ?
J'ai été cyberharcelé. D'ailleurs, je le suis toujours en partie, même si ce cyberharcèlement, il est différent. Il n'est plus forcément l'œuvre des mêmes personnes, mais ça existe encore.
Pourquoi est-ce que vous êtes cyberharcelé ? Je veux dire, au tout début, qu'est-ce qu'on vous reproche en fait ?
Ah, mais il y a plein de choses. Il y a prendre la défense d'une amie qui en fait qui a des soucis avec un homme qui est lui-même un sympathisant de cette Ligue du LOL, par exemple. Il y a aussi après le fait de cette relation. De ma situation conjugale, dirons-nous, dont on vient de parler, qui devient un terrain de blagues permanent et d'humiliation. On devient une blague géante sur Twitter pour quelques personnes, et c'est encore le cas à l'heure actuelle.
C'est-à-dire, finalement, toutes ces fois où vous avez dérogé à la règle, où vous êtes sorti du schéma viriliste, paf, vous en avez pris plein la gueule, quoi.
Ça a pété.
C'est ça.
C'est pour ça que.
C'est ça que vous payez.
Ouais, on voit que la plupart, de toute façon, la plupart des victimes de cyberharcèlement sont des femmes. Le documentaire Sale pute de Myriam Leroy et Florence Henault l'a encore montré récemment. En termes de pourcentage, c'est une immense majorité de femmes. Il y a quand même quelques hommes qui sont victimes. Et souvent, c'est parce qu'effectivement, ils sont allés à l'encontre des valeurs qui sont d'habitude associées à la masculinité.
Donc, vous êtes cyberharcelé. À un moment donné, hiver 2019, vous tweetez de façon assez cryptée qu'il y a effectivement, semble-t-il, quelques journalistes qui en cyberharcèleraient pas mal d'autres. L'affaire de la Ligue du LOL explose. Médiatiquement, ça fait un bruit assourdissant. Et puis, quelques mois plus tard, on vous ressort, donc, et quand je dis on, vous savez qui c'est ou pas ?
Oui, c'est en fait l'idée, c'est qu'il y a toujours quand il y a des, notamment des dénonciations de cyberharcèlement par exemple ou de harcèlement tout court, on essaye après de des sympathisants, notamment des personnes qui ont été accusées, essayent après de prouver que vous n'êtes pas la victime idéale et que vous aussi vous avez fait des conneries ou dit des conneries. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pas été d'ailleurs le seul à être la cible de ce genre de choses. C'est qu'il y a eu des recherches extrêmement approfondies et qu'effectivement une personne est tombé sur des tweets datant de 2013-2014. Donc à la fois, moi j'ai l'impression que c'est dans une autre vie, en même temps il faut reconnaître que c'est pas si vieux. Des tweets composés essentiellement de blagues sexistes de très bas niveau.
Et c'est vrai que quand on les lit, on n'arrive pas à imaginer que ce soit vous. En fait, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, et pourtant c'est vous, quoi.
Mais c'est moi, c'est totalement moi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la même personne. Et ce que je dis souvent, c'est que le Thomas Messias de 2013-2014 qui a écrit ça, si je le voyais, mais j'aurais tellement envie de le gifler. Mais réellement, c'est abominable, les tweets, ces blagues vraiment, mais qui sont en plus vraiment tellement même pas drôles. Même si on est sexiste, elles sont pas drôles. Ça n'a aucun intérêt.
Ce que vous racontez aussi, avec le recul, et vous en parlez dans votre livre, c'est que finalement, vous avez voulu, comme tous les membres de la meute, être plus loup que les autres loups. C'est-à-dire que pour rester dans la meute, il faut mordre plus fort.
Ben oui, mais c'est la règle de ces meutes. C'est aussi la règle, malheureusement, des réseaux sociaux assez souvent. C'est que ben, si on montre qu'on est plus méchant que son voisin, et ben souvent, on devient populaire. Mais c'est ce qui se passe aussi dans les cours de récréation et un peu partout, en fait. Mmh. Donc, j'ai joué à ce jeu-là de façon extrêmement bête, extrêmement nauséabonde, pour me faire bien voir de certaines personnes que je considérais comme plus puissante ou plus charismatique ou plus virile que moi. Et donc j'ai écrit ces tweets qui, effectivement, pour certains, faut reconnaître qu'il y en a sans doute encore quelques autres qui ont disparu, mais il y a sans doute pas que cette dizaine-là, il y en a peut-être 15 ou 20, j'en sais rien. Mais voilà, ils ont fini par être exhumés.
On va continuer à parler masculinité et féminisme ce soir, mais d'abord laissez-moi vous présenter celles et ceux qui nous accompagnent depuis le derrière de la vitre à la technique. Victor Ouvrard, Ophélie Vivier, attachée de production, Marianne Crimbaud à la réalisation. Et comme tous les vendredis, c'est Djoubaka au platine. Barnett, Ray Street sur France Inter. Et maintenant, imaginons un monde où on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les gens seraient mouvants, où on en ferait exactement ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le nôtre et c'est dans notre labo du genre qu'il se dessine semaine après semaine, dans 2 minutes sur France Inter. Vous verrez ce que nous amène Thomas Messias comme contribution au labo du genre. Mais ça, ce sera juste après une petite touche de Killy Smile pour la bonne bouche.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Come on my days, trying hard to get your attention, but it ain't working, yeah. I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed.
Vous citez Killy Smile en exergue de votre livre, Thomas Messias, en disant « La virilité, c'est juste une excuse pour être un gros connard ». C'est votre conclusion, ça ?
Ah bah, c'est totalement ma conclusion, je ne peux pas dire mieux. Voilà, je remercie Killy Smile pour cette phrase qui est tombée du ciel un jour de documentaire sur TMC. Oui, voilà, au nom de la virilité, on peut visiblement tout s'autoriser, donc c'est pour ça que cette quête de virilité, cette quête de masculinité hégémonique, bah, il faut essayer de l'enrayer urgemment.
Vous, pour ne pas être un grand connard, vous avez un objet qui raconte votre masculin à vous et auquel vous tenez beaucoup et qui est... Décrivez-moi cet objet.
Eh bien, c'est un calendrier que j'accroche sur mon frigo avec un petit ruban.
Mais ça, c'est votre côté prof, quand même, un peu.
Ah, j'aime bien les tableaux et tout, j'avoue. Oui, le côté prof de maths. C'est un calendrier avec 5 colonnes qui correspondent donc chacune à un membre de la famille. On inscrit absolument tous les rendez-vous, les invitations... les sessions de travail, etc., etc. Ça permet à toute la famille d'avoir un visuel sur le mois. Il y a une petite pochette pour mettre les invitations aux anniversaires, les places de concert et tout. C'est vraiment l'un des points centraux de la maison où tout le monde va consulter les infos dont il a besoin.
Et c'est votre idée à vous au départ ?
C'est une idée commune, mais c'est un calendrier. En plus, on a vraiment passé au banc d'essai les différents calendriers familiaux qui existaient. C'est le même depuis 4 ans. En plus, on les garde en souvenir. Là, celui que j'ai amené, c'est celui de 2020. Je ne voulais surtout pas enlever celui de 2021 du frigo, parce que la maison se serait sentie toute vide d'un coup. Mais l'idée, c'est que, depuis que j'ai des enfants, en tout cas, je tiens absolument à être partie intégrante de l'organisation du foyer, c'est-à-dire de pas juste d'aider, mais de faire ma part, voire même de faire plus que ma part quand de l'autre côté il y a besoin d'avoir peut-être un peu plus d'air ou ce genre de choses.
Pour vous, c'est ça votre façon à vous d'être un homme. En tout cas, c'est comme ça qu'on devrait peut-être repenser les choses au XXIe siècle.
Organiser ensemble la vie du foyer, anticiper les choses, penser aux vacances, pas la veille, mais des mois avant, penser aux cadeaux. En fait, c'est tout ce qui est lié à la charge mentale, à la charge domestique.
La partager.
Et déjà, en parler ensemble quotidiennement, ça contribue déjà, c'est une première étape très importante pour la partager, oui.
Eh bien, votre calendrier va rejoindre immédiatement notre labo du genre. Thomas Messias, unique en son genre, c'est terminé pour ce soir. À l'écart de la meute, sortir de l'amitié masculine paraît chez Marabout le 15 septembre. Merci à vous, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, enfin écoute, toujours avec le même plaisir.